bonne journée. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, au lendemain de la journée nationale des mémoires, de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions, on se demande de façon très pédagogique ce qu'est le racisme. À l'occasion de la sortie du dernier numéro du mensuel Sciences Humaines, consacré au racisme, avec le Musée de l'Homme, comment définir le racisme ordinaire? Quelle est la différence avec la xénophobie? Sale bougnoul, sale youpin, sale négro, sale jaune. Pourquoi la parole raciste s'est-elle libérée au nom de la lutte contre le politiquement correct et de la liberté d'opinion? La parole raciste conduit-elle forcément à des pratiques discriminatoires et à la violence? Sommes-nous tous des racistes en puissance? Même si les actes racistes ont fortement baissé en 2016, d'après les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, comment lutter efficacement contre le racisme quand l'écrasante majorité des Français se dit étrangère à ces idées? Nos invités tenterons de répondre à toutes ces questions et nous attendons vos questions, réactions et témoignages par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter. Eliès et Clarisse attendent vos coups de fil au 01 45 24 7000 et puis dans quelques minutes vous retrouverez la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Vous avez vu Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs.
En tout cas, c'est pas monsieur que ça risquerait d'arriver.
Quoi donc?
Que mademoiselle épouse un noir.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Que monsieur est peut-être un peu raciste.
Raciste? Moi, raciste? Salomon, raciste? Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palo, tu trouves pas? Avec ce petit bouton.
Et son cheveu sur la langue.
Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde.
Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif.
Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh!
Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin.
Mais il n'est pas juif.
Ben si.
Un extrait du film Rabbi Jacob de Gérard Houry en 1973 avec Louis de Funès et Henri Guibé. Pour répondre à la question « Qu'est-ce que le racisme ?», quatre invités. Bonjour Jean-François Dortier.
Bonjour.
Vous êtes directeur du mensuel Sciences Humaines. Bonjour Maud Navarre.
Bonjour.
Journaliste à Sciences Humaines également. Vous avez coordonné le dossier consacré au racisme en partenariat avec le Musée de l'Homme. Bonjour Okaya Diallo.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir. Vous êtes journaliste, documentariste, écrivaine, militante antiraciste et vous avez notamment publié « Le racisme expliqué aux enfants ». Bonjour Sylvain Delouvet.
Bonjour Ali.
Vous êtes maître de conférence en psychologie sociale à l'Université de Rennes, en duplex de France Bleu Armorique. Alors, question simple, qu'est-ce que le racisme? Apparemment simple, évidemment. Le Robert nous délivre les définitions suivantes. Le racisme, c'est d'abord l'idéologie postulant une hiérarchie des races. Le racisme, c'est aussi la discrimination, l'hostilité violente envers un groupe. Quelle est votre définition du racisme, Rokaya Diallo?
Alors, pour compléter cette définition, je pense que je ne ferai pas de circonscription du racisme à son expression violente. On a tendance à penser que le racisme, c'est quelque chose qui relève de sentiments individuels ou de qualités morales, mais pour moi, c'est un système de domination, comme le sexisme, qui relève de processus historiques et sociopolitiques et qui se traduit à la fois dans une hostilité qui peut être violente, mais aussi par des petites phrases qui se veulent positives, le fait qu'on prête des qualités, par exemple, aux noirs selon lesquels ils courraient vite, aux asiatiques selon lesquels ils seraient absolument intelligents. Pour moi, ça relève aussi des préjugés et du racisme.
Maud Navarre, quels sont les piliers du racisme? D'abord, catégoriser les individus en groupe.
Voilà, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on montre dans le dossier de sciences humaines. Il y a trois piliers principaux du racisme. Le premier, c'est d'établir des différences entre les individus en fonction de leur couleur de peau ou éventuellement de leur religion. Le second, c'est de hiérarchiser ensuite, de dire un noir est plus ou moins qu'un blanc, un chinois est plus ou moins qu'eux, etc. Et puis, le dernier pilier qui constitue le racisme, c'est le fait d'essentialiser, c'est-à-dire de naturaliser, de dire c'est comme ça et ça ne changera pas.
C'est-à-dire présenter des différences comme étant indépassables, inévitables, relevant d'une transmission héréditaire, Okaya Diallo.
tout à fait imaginer que, en fait, des groupes, au nom d'une prétendue ethnicité ou d'une appartenance raciale, auraient des qualités ou des défauts qui seraient indépassables et qui les caractériseraient humainement. Et le fait de rapprocher, en fait, finalement, le comportement d'un individu à celui de ce qu'on suppose comme étant l'ensemble de son groupe.
Question d'un jeune auditeur qui nous a été envoyé. Bonjour, mon fils Charlie, qui a 7 ans, souhaite poser une question à vos invités. Connaît-on le premier raciste? Quand est-ce que le racisme est apparu? Qui veut répondre à cette question? Maud Navarre.
Alors, le racisme est un phénomène très ancien. Disons que les phénomènes qui sont les plus connus, c'est ceux qui découlent en fait de la colonisation. Hein. Ce sont toutes les premières conquêtes coloniales qui ont contribué effectivement à développer le racisme.
Rokhaya Diallo, rappelons d'abord que le terme racisme réunit des faits idéologiques très divers, nés dans des contextes différents.
Tout à fait, dans des contrées différentes. Et puis pour répondre peut-être un peu rapidement aussi à cette question, c'est difficile de déterminer et de nommer le premier ou la première raciste, mais je crois que c'est intéressant aussi de se rappeler que le racisme s'est vraiment exprimé de manière politique quand il a été théorisé. Et il a été théorisé à la fois par des philosophes comme Emmanuel Kant, mais aussi par des pseudo-intellectuels français comme le comte de Gobineau. Et c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique au racisme européen. Et après, effectivement, du Rwanda au système des castes en Inde, on a vraiment des expressions du racisme qui sont très variées.
Jean-François Dortier, on peut dire à Charlie que le racisme naît avec l'altérité humaine?
Oui, justement, c'est un débat. Alors, il y a une première théorie qui vient d'être avancée, c'est que c'est lié à la colonisation. Ce serait un phénomène proprement européen. Ça, c'est vrai pour l'idéologie raciale. Le phénomène qu'a évoqué Maud, c'est-à-dire le fait de percevoir une communauté différente de la sienne, d'attribuer aux individus des qualités, ou plutôt souvent des défauts d'ailleurs, qui est une façon de se valoriser et d'hiérarchiser, ça, c'est un phénomène beaucoup plus général, qui remonte sans doute beaucoup plus loin dans l'histoire, parce que c'est pas propre à l'Occident. Si vous allez au Japon, qui est aussi une société qui a été impériale, il ne fait pas bon être coréen ou noir ou chinois. Et si vous allez en Chine, il ne fait pas bon faire partie de la communauté des Han. Et si vous allez au Congo, il ne fait pas bon être pygmé par rapport aux Bantous. Donc, ce qui est propre à l'histoire européenne, c'est la constitution d'une idéologie raciste qui est devenue une sorte d'idéologie dominante. Mais comme vous l'avez rappelé à l'instant, aujourd'hui, c'est plus l'idéologie qui est raciste. C'est quelque chose de beaucoup plus insidieux, qui est beaucoup plus général dans la société.
Sylvain Delouvet, je rappelle que vous êtes maître de conférence en psychologie sociale en duplex de Rennes. La logique du « nous » et du « eux », c'est l'un des traits constants du racisme et de l'histoire de l'humanité en même temps.
Oui, exactement. C'est pour ça que j'irais parfaitement dans le sens de ce que vient d'évoquer Jean-François Dortier, la distinction entre le racisme comme idéologie et les processus et fonctionnements du racisme. À ce titre-là, le racisme est beaucoup plus ancien. La base même de ce racisme, c'est la catégorisation entre les groupes, entre eux et moi. À partir du moment où on catégorise les individus, à partir du moment où on fait des différences entre mon groupe d'appartenance et les groupes auxquels je n'appartiens pas, nous avons déjà là les bases d'un certain nombre de processus et de mécanismes qui peuvent aboutir à du racisme.
Sylvain Delouvet, catégoriser des individus en groupe, c'est un réflexe du cerveau humain.
Oui, tout à fait. C'est un réflexe qui nous permet de pouvoir agir plus facilement, de pouvoir comprendre le monde aussi, de pouvoir prendre des décisions. Dans les années 70, un auteur qui s'appelle Tachfel a montré que la simple catégorisation arbitraire d'individus suffit à faire apparaître des comportements discriminatoires qui vont favoriser notre groupe d'appartenance. Donc à partir du moment où je vous mets dans des catégories, dans des cases, eh bien j'ai déjà la base de comportements discriminatoires.
Réflexion de notre philosophe Thibaut de Saint-Maurice. Bonjour Thibaut.
Oui, bonjour. Juste rappeler aussi que effectivement cette distinction entre les différents types de racisme, Lévi-Strauss par exemple dans son livre Race et Histoire rappelle quelque chose qui est un peu vertigineux, c'est que la condition pour qu'une communauté se sente unie, c'est qu'elle est entre guillemets des ennemis communs ou un rejet commun. Et il dit en un sens que c'est quasiment anthropologique, c'est-à-dire que le racisme pour une communauté, c'est une condition de son unité, c'est-à-dire le fait de rejeter d'autres communautés. Et en cela, elle n'est pas le propre de l'Europe, même si effectivement l'Europe l'a théorisé, etc. C'est presque du fonctionnement interne de nos communautés.
Et René Girard ne dit pas autre chose avec la notion de bouc émissaire. Rokhaya Diallo.
Bah, c'est peut-être pour ça qu'on parlerait plus dans ce cas-là d'ethnocentrisme, en fait, le fait de considérer le groupe auquel on appartient comme étant le groupe central et référent, et de voir en fait tous les autres comme étant différents et qu'on distingue en les amalgamant de manière parfois un peu indistincte et monolithique.
Sylvain Delouvet.
Oui, ce processus de catégorisation que j'évoquais là, il va s'accompagner de ce qu'on appelle deux biais perceptifs. Ces deux biais, ils sont simples, c'est ce qu'on appelle l'effet de contraste et l'effet d'assimilation. L'effet de contraste, c'est l'idée selon laquelle des membres qui appartiennent à deux catégories différentes sont très différents. Donc, pour aller vite, un blanc et un noir sont très différents entre eux. Et l'effet d'assimilation, ça correspond à la surestimation de la ressemblance des mêmes membres d'une catégorie. Tous les blancs entre eux se ressemblent beaucoup plus. Et ces biais perceptifs-là sont à la base de perceptions différentes des groupes.
Allez, nous attendons toutes vos questions et réactions par courriel, grandbienvousfasse@radiofrance.com, au standard Inter 01 45 24 7000. Et il est temps de retrouver la petite philo de la pub et des marques de notre prof de philo, Thibaut de Saint-Maurice.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou pour dépenser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pulpe, elle reste en bas.
Thibaut de Saint-Maurice, vous posez une question très intéressante ce matin. Pourquoi certaines publicités tombent-elles régulièrement dans le piège du racisme ordinaire ?
Bonjour, je m'appelle Bamboula. J'ai donné mon nom à un tout nouveau biscuit au cacao.
Monsieur Désiré Mbala, crayon noir, nous parle du cahier Super Conquérant.
Super Conquérant, il est super. C'est un sacré rigolo, lui.
Et il nous fait le couscous.
Il est extra, oui, oui.
À la viande, aux légumes, au poulet.
Le couscous. Tiens, la fête, c'est déjà prêt.
Voilà, donc, nos comments. Florilège, voilà, assez consternant, hein, de publicité véhiculant des stéréotypes racistes. Alors, bien lourd, hein, bien appuyé. Donc, ça, c'était dans les années 80. Mais qui aussi s'inscrivent, il faut le dire, dans une sorte de triste tradition qu'on pourrait faire remonter au Yabon Banania. Et puis, qui continue encore aujourd'hui, puisque fréquemment, alors de façon peut-être un peu plus légère et encore, des marques tombent dans le piège. Alors, dernières en date, hein, c'était Danette, par exemple, Ikea, ou tout récemment, le mois dernier, Nivea, qui s'est fait avoir avec une publicité diffusée sur Facebook au Moyen-Orient et qui proclamait « White is purity », c'est-à-dire « Le blanc, c'est la pureté ». Bon, évidemment, ces marques ne sont pas délibérément racistes, hein, ce n'est pas un racisme idéologique, comme on a pu déjà l'évoquer, qui reposerait donc sur le principe explicite d'une hiérarchisation des races humaines, c'est plutôt un racisme ordinaire, intégré à nos imaginaires, et qui est en fait d'autant plus redoutable parce qu'il nous concerne tous.
Mais Thibaut, comment est-il possible que des marques tombent dans ce piège ?
Eh bien, si la publicité fait parfois des dérapages racistes, c'est parce que son langage est essentiellement stéréotypé. Les messages sont courts, parfois ce n'est même qu'une image, et il faut donc être efficace, et le stéréotype fonctionne donc comme un raccourci. Et puis, deuxième explication, le stéréotype permet aussi de distinguer des groupes sociaux. Le stéréotype, on l'a évoqué, hein, c'est une représentation figée propre à un certain groupe et ce groupe le partage. Et ce partage du stéréotype, c'est le symptôme de l'appartenance au groupe. Donc le recours au stéréotype permet aussi de cibler rapidement une communication. Mais toute la difficulté, c'est que si ce racisme ordinaire est présent dans la pub, c'est aussi finalement parce qu'il est présent en chacun de nous. Nous commençons à percevoir le monde de façon stéréotypée. Alors pourquoi ? Une des réponses, on l'a déjà évoqué avec les biais perceptifs, mais une des réponses est aussi à aller chercher du côté du philosophe allemand Husserl et de son analyse de la perception. Husserl explique que notre perception d'une personne ou d'une chose n'est jamais complète. Quand on regarde une personne, par exemple, on ne la voit jamais entièrement. On ne la voit que sous un certain angle, de face, de profil, de dos ou de trois quarts.
Et pourtant, cette perception un peu incomplète n'empêche pas de reconnaître la personne.
Oui, mais nous la reconnaissons à chaque fois, nous dit Husserl, parce que notre perception est intentionnelle. Ça veut dire que nous complétons nos perceptions par des représentations qui sont en un sens déjà emmagasinées. Et que nous percevons ce que nous percevons donc toujours dans un contexte de représentation déjà un peu sédimenté en nous. Bref, nous ne sommes plus tout à fait attentifs aux détails et aux différences et nous réduisons et mettons dans le même sac. C'est là toute la racine du racisme ordinaire. Sauf que cela n'a rien d'une fatalité. Pour lutter contre cette tendance réductrice de la perception, eh bien il faut remettre l'imagination aux commandes. Parce que l'imagination permet justement de produire d'autres images qui viendront concurrencer
concurrencer les images stéréotypées et donc se suspendre leur apparente pertinence. Et c'est au fond surtout ça qui explique le racisme ordinaire de certaines publicités. C'est parce qu'elles souffrent d'un défaut d'imagination et de créativité. Et c'est d'ailleurs parce que la pub est aussi capable d'être créative qu'elle permet de lutter contre les stéréotypes dans des campagnes qui, cette fois, sont contre le racisme.
Merci Thibaut de Saint-Maurice. Réaction autour de la table, Rokhaya Diallo.
Effectivement, la publicité, c'est vraiment un endroit où régulièrement il y a des stéréotypes. Il y a aussi, enfin, vous avez évoqué Nivea, mais il y avait une autre polémique il y a quelques années où il y avait un homme noir qui tenait en main son ancien visage avec une coiffure afro. Et là, il était coiffé de cheveux lisses et le slogan, c'était « Recivilisez-vous ». Et ça avait fait scandale également. Mais il y a d'autres biais aussi. Par exemple, il y a une grosse controverse il y a quelques années lorsque Beyoncé a été l'égérie de L'Oréal et elle est apparue extrêmement claire de peau sur l'affiche, contrairement à sa carnation habituelle.
Jean-François Dortier.
Oui, cela dit, aujourd'hui, si on va trouver effectivement des traces de racisme dans la publicité, les marques font très très attention. On n'est plus à l'époque de Bamboula, justement, des années 80. C'est l'occasion de dire aussi, attention, quand on parle de racisme ordinaire, de ne pas croire que toute la société serait imprégnée d'une sorte de racisme invisible ou latent et qui pourrait surgir à tout moment. Aujourd'hui, par exemple, il y a une forme de racisme qui est avouée et qui est explicite au deuxième degré, par exemple, quand vous allez dans les quartiers de la banlieue. On ne peut plus aujourd'hui parler de race, sauf si vous êtes dans certains quartiers où les mots de rebeu, les mots de fudge, les mots de black là, ne viennent pas de la publicité ou de ce qu'on pourrait appeler des médias, ou au contraire, ils viennent de la banlieue où ils sont utilisés souvent sur un mode aussi au deuxième degré. C'est-à-dire qu'on peut être très ami avec plein de gens qui sont bon, t'es black, tu flippes ta race, tous ces mots-là sont une forme de, on va pas dire justement de discrimination, mais d'usage des mots racistes qui ne le sont pas toujours.
Rokhaya Diallo.
Mais moi, je crois que c'est plutôt sain de nommer les catégories raciales. Je pense qu'au contraire, en France, par rapport à d'autres pays, on souffre justement de ce tabou et de cette incapacité à dire noir et en préférer dire black, etc., etc. Donc, je trouve que c'est pas forcément un mal que de pouvoir nommer ce qu'on perçoit et qui produit des effets sociaux.
Et pour aller dans votre sens, Jean-François Dortier, je recommande la lecture de Cœur de banlieue de l'anthropologue David Lepoutre. Merci beaucoup Thibaut de Saint-Maurice, la petite philo de la pub et des marques. C'est tous les jeudis dans Grand Bien Vous Fasse, Grand Bien Vous Fasse, est préparé par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot, et c'est réalisé par Claire Destacan. Qu'est-ce que le racisme ? Question-réaction, 01 45 24 7000.
Tout le temps, sur la plage textile. Alors ouais, je prends.
prends mon temps, j'ai gardé quelques cardigans, quelques photos en noir et blanc, j'ai gardé la mixtape, mais effacé la sextape, léger comme peut l'être l'air des vacances. J'avoue que j'en ai rien à faire.
C'était la toute première diffusion sur France Inter du tout nouveau titre de Benjamin Biolay, Hyper Tranquille, issu de l'album Volver qui sort le 19 mai prochain. Benjamin Biolay en concert le 7 juin à 20h30 au studio 104 de la Maison de la Radio. Et puis vous pouvez découvrir le clip en avant-première sur le site franceinter.fr.
France Inter, grand bien vous fasse.
10h27, qu'est-ce que le racisme? C'est notre question du jour avec les journalistes de sciences humaines, Jean-François Dortier et Maud Navarre, avec la journaliste et militante antiraciste Rokeya Diallo, et avec le maître de conférence en psychologie sociale, Sylvain Delouvet. Alors on a un courriel de monsieur ou madame Portal, qui nous dit: en introduction de votre émission, vous avez cité des insultes racistes, sale noire, sale arabe, sale juif, sale asiatique, vous n'avez pas envisagé sale blanc ou sale gaulois, est-ce un oubli ou est-ce volontaire? Jean-François Dortier.
C'est un oubli volontaire, on va dire. Un oubli parce qu'effectivement, c'est pas une chose commune qu'on entend. autour de ma longue vie de blanc, je n'ai jamais été ressenti un racisme anti-blanc.
Pourtant, certains parlent d'un racisme anti-blanc.
Bien sûr. Alors, d'abord, il faut être honnête, faut dire les choses. Il y a des minorités de gens qui ont subi le racisme, qui, par réaction de rejet, eh bien, rejettent les gens qui les dominent. Donc, la fierté noire, à un moment donné, aux États-Unis, consistait aussi à dénigrer les blancs au nom de la beauté de la race noire et de sa supériorité. Mais ça, c'est d'une part extrêmement minoritaire comme réaction très politique. Et souvent, le discours de la critique anti-blanc vient souvent de racistes blancs qui disent, c'est à peu près les mêmes qui disent, ils ont tout. Ils ont les logements. Ils ont beaucoup d'avantages, bon, mais le déséquilibre est énorme entre le racisme anti-blanc qui peut exister dans certaines petites communautés et celle qui règne dans la société.
Maud Navarre.
Oui, alors le racisme anti-blanc, c'est quelque chose qui statistiquement reste minoritaire. Quand on demande aux personnes très concrètement, est-ce que vous avez déjà été victime de racisme anti-blanc, les statistiques montrent que c'est un phénomène qui concerne une marginalité, marginalement en fait. Et par contre, effectivement, ça, c'est quelque chose qui peut exister, en particulier lorsqu'un blanc se retrouve dans un contexte minoritaire où il est entouré de personnes de couleur.
Rokeya Diallo.
Alors évidemment, je pense qu'il faut condamner les injures raciales quelles qu'elles soient, mais je crois que c'est important aussi de rappeler ce qu'on n'a peut-être pas encore fait, la caractéristique aussi parfois systémique du racisme, c'est-à-dire que les gens qui sont minoritaires, notamment en France, sont exposés à la fois à des violences individuelles, qui peuvent être aussi celles qu'expérimentent certains blancs lorsqu'ils sont injuriés, mais aussi à des violences institutionnelles, qui peuvent être des violences liées à l'exercice des contrôles aux faciès. Donc ils ont vraiment un système de domination qui est protéiforme, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas des blancs en France, qui sont considérés comme étant des citoyens légitimes sur tous les plans. Donc c'est difficile en fait de rapprocher des choses qui se manifestent de manière très très différente et à des niveaux de violence extrêmement différents.
Sylvain Delouvet, maître de conférence en psychologie sociale depuis Rennes. Sylvain Delouvet, il est parti. Vous vouliez intervenir. En attendant votre intervention, j'accueille Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Vous appelez du Loir-et-Cher.
Oui, tout à fait.
Alors, que vous inspire notre sujet du jour consacré au racisme?
Alors, j'écoute toujours vos émissions et les émissions de France Inter avec passion, je dois le dire. Elles sont toujours très bien faites. Et là, j'ai pris mon téléphone dès que j'ai su le sujet du jour. Je suis une blanche métropolitaine née à Paris, maman d'une enfant métisse qui aura 34 ans dans une quinzaine de jours, mariée à un Guadeloupéen depuis 41 ans à peu près. Et je veux seulement rebondir, je ne sais pas si mon témoignage pourra servir à quelque chose, mais sur le caractère insidieux effectivement du racisme ordinaire et de ses répercussions, parce qu'elles sont immenses. C'est-à-dire que Évidemment, j'avais le témoignage, et j'ai toujours eu, de ma fille dès qu'elle a été en âge de s'exprimer, et de mon mari depuis toujours, sur les agressions verbales. Hein, je parle des agressions verbales qui peuvent être faites, alors là, qui sont claires, qui sont, sans jeu de mots, qui sont précises, qui sont agressives. Mmh. Et puis, tout ce qui peut passer parfois par des paroles pratiquement compassionnelles, mais qui expriment un rejet, une non-légitimité, comme vient de le dire très bien Madame Diallo.
Par exemple,
quand, en particulier moi, quand ma fille est née, je suis tombée de l'armoire. Hein, j'ai découvert le pays dans lequel j'étais assez naïve, élevée avec tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, avec une évidence devant les yeux. C'est-à-dire que, par exemple, mon bébé sur les genoux dans le métro à Paris, une vieille dame en face de moi met sa main sur mon genou, geste très compassionnel, en me faisant parler, en me demandant, son papa, quelle origine. Je réponds et la dame, donc, avec sa main sur mon genou, me dit, or, l'essentiel, c'est d'avoir un papa et une maman. Une dizaine d'années plus tard, j'étais très choriste, j'emmène ma fille avec moi à une répétition, on découvre qu'elle est métisse, et parmi mes collègues, certaines me disent, mais son papa, il était antillais? Alors, son papa, il n'était pas mort, il était toujours là. Enfin, des phrases de ce genre, parce qu'évidemment, ça ne pouvait pas être un choix de ma part. Hein. Je n'étais pas légitime dans le groupe de blancs duquel je fais partie.
Réflexion très intéressante de Sylvie Rocaille-Diallo. Une idée reçue, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, voudrait que le racisme se réduise à l'hostilité ou à la peur. Alors, paradoxalement, et Sylvie nous le dit très bien, le racisme peut être le fruit de paroles apparemment bienveillantes ou positives. Par exemple, si je dis que les juifs sont plus intelligents que la moyenne, que les noirs courent plus vite que les blancs, qu'ils ont un pénis plus gros que la moyenne, ou encore que les asiatiques sont plus malins que les autres, eh ben apparemment je ne profère pas des idées racistes, mais pourtant si.
Mais si, parce qu'on confère de manière complètement monolithique à un groupe des qualités, et ce qui permet pas en fait de les individualiser en tant qu'humains. Et ce que vient de dire l'auditrice est très intéressant, parce que ça relève de ce qu'on appelle les micro-agressions, et dont on ne mesure pas beaucoup les effets, parce qu'il y a des gens en fait qui sont, du fait de leur appartenance minoritaire, exposés en permanence à des petites phrases en fait qui l'une individuellement en fait ne semble pas agressive, ne semble pas violente, mais en fait additionnées les unes aux autres entretiennent chez eux le sentiment en fait d'une exclusion. Et parfois ce sont des questions très banales et les gens ont du mal à le comprendre, mais le fait de demander à quelqu'un parce qu'il a l'air arabe, asiatique ou parce qu'il est noir, de lui demander en permanence d'où il vient, en sous-entendant qu'il vient forcément d'ailleurs. Alors la première fois évidemment on a l'impression que ce n'est pas grave, mais le fait de le répéter entretient chez la personne l'idée qu'elle n'est pas tout à fait légitime et qu'elle est perçue comme étant étrangère.
Sylvie, quelle était votre réaction face à des paroles apparemment bienveillantes mais qui cachaient une sorte de racisme larvé ?
Stupéfaction. Et puis quand j'étais un petit peu plus mature, si j'ose dire, une colère rentrée, alors à laquelle je répondais au maximum par de l'humour, hein, en disant par exemple voilà que le papa n'était pas mort et que je l'avais choisi. Voilà. Merci beaucoup Mme Diallo, parce que vraiment vous êtes d'une clarté extraordinaire et que c'est tout ce que j'aurais pu dire. Hein. On n'a pas beaucoup de temps d'antenne et je le comprends parfaitement. Ce que je voulais dire, c'est que justement par rapport à ce que vous venez de dire aussi, c'est effectivement très insidieux et très grave et très laminant. Je vais vous faire un raccourci qui peut-être vous surprendra, mais petit à petit, je suis bien sûr rentrée dans une espèce, moi je me sens sans mêlée dans mon cœur, hein, forcément, et je suis rentrée dans cette peur, dans ce rejet ressenti, assez facilement, même si je suis quelqu'un de très positif et qui essaye toujours et de communiquer, et dès que je peux, quand j'ai un interlocuteur en face de moi et que je sens que ça vaut, que c'est possible, essayer de le faire sortir de ses convictions, ou en tout cas de ses a priori. Mais voyez, par exemple, pour ce qui s'est passé pour la dernière élection, moi, il est clair que je suis rentrée dans la peur de mon mari et de ma fille, qui n'ont pas hésité à voter pour un candidat qui n'était pas le leur, mais parce que je suis rentrée dans cette peur. Toutes ces phrases accumulées, on se demande parfois, c'était très bien dit dans l'extraordinaire film de Raoul Peck qui est passé sur Arte, l'année dernière, qui faisait état de ce que pouvaient ressentir les Noirs aux États-Unis. On le reproche, mais on le reproche aussi ici. Ah, ces gens sont pas assez battants, ils sont pas assez. Mais quand vous êtes toujours du côté du manche, où vous vous prenez comme ça dans les dents des réflexions, encore une fois, même si elles ne se veulent pas désobligeantes, mais qui vous montrent que vous n'êtes pas légitime. Et moi, par le fait, je suis devenue illégitime aussi, quelque part, en ayant choisi ce mélange.
Rokhaya Diallo.
Ah, je trouve que le pendant de ce que vous dites aussi, c'est déjà je vous remercie pour votre commentaire, mais le pendant c'est aussi de rappeler le privilège des gens qui ne sont pas en permanence renvoyés à leur couleur de peau, parce que on reproche souvent aux minorités de clamer leur couleur de peau, mais en réalité c'est la société qui leur rappelle en permanence, et c'est un véritable privilège que de ne pas avoir à s'en rappeler en permanence.
Maud Navarre.
Oui, sur les réactions au racisme, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des palettes de comportements très différenciés qui apparaissent. Il y a des personnes qui effectivement essayent de répondre par l'humour, comme le disait l'auditrice. Il y a d'autres personnes qui vont essayer, au contraire, qui vont avoir tendance à se replier sur elles-mêmes. Et puis, il y en a d'autres qui vont essayer de s'emparer de la question et de militer pour défendre aussi leur égalité.
Sylvain Delouvet, en duplex de Rennes, je crois que vous êtes revenu.
Oui, tout à fait. Un petit souci. Je voulais juste rappeler que le racisme, c'est une forme de préjugé basé sur l'origine ethnique. Il existe d'autres formes de préjugés spécifiques comme l'agisme, l'antisémitisme ou encore le sexisme. Et donc, comme forme de préjugé ou de préjugement, il peut être négatif ou positif à la base.
Merci beaucoup,
ensuite,
Sylvie.
Là, on va pouvoir faire... Pardon.
Allez-y, continuez, pardon, je pensais que vous aviez déjà terminé.
Je voulais simplement préciser que c'est là ensuite où on va pouvoir faire un lien avec l'idéologie raciste qui était évoquée, parce que les stéréotypes mentionnés tout à l'heure, qui étaient des stéréotypes entre guillemets positifs, insinuaient bien évidemment un racisme vis-à-vis du groupe évoqué.
Merci beaucoup Sylvie de nous avoir appelé du Loir-et-Cher. Alors l'écrivain Albert Memmi relevait une étrange contradiction, je le cite, « Il y a une énigme étrange à propos du phénomène du racisme, personne ou presque ne se veut raciste, et pourtant le discours du racisme demeure tenace et actuel. » Rokhaya Diallo.
Oui, parce que c'est en fait la qualification de raciste est absolument infamante, donc personne ne revendique cette qualification, et les gens, lorsqu'ils sont accusés de racisme, en fait, jurent leur grand Dieu qu'ils ne le sont pas, et en même temps, ça n'empêche pas le racisme de se propager, notamment à travers des discours médiatiques. On voit qu'il y a quand même ces dernières années pas mal d'éditorialistes qui ont fait carrière sur ces idées absolument révoltantes, mais qui pour autant ne revendiquent pas le qualificatif de racisme. Donc il ne faut pas chercher le racisme derrière les gens qui s'appellent volontairement racistes.
Maud Navarre.
Oui, moi je voudrais rajouter un chiffre qui est très intéressant, qui est le fait que 85% en fait des personnes considèrent aujourd'hui que la France est un pays raciste.
Donc, selon un sondage de la Commission nationale des droits de l'homme, pourquoi la parole raciste s'est-elle à ce point libérée dans l'espace public, mais pas que, Jean-François Dortier?
Je ne sais pas si elle est à ce point libérée. Quand on parle de l'espace public, il faut parler de plusieurs choses. Hein. Vous parlez par exemple des médias, vous parlez de la publicité, on vient de voir que non, dans l'espace des médias...
Internet
alors voilà, justement, c'est un autre espace. Donc Internet a donné la voix à des sans-voix. Donc ça a donné la place au racisme, comme à plein d'autres expressions. Donc il faut faire attention aussi à ne pas, même s'il est vrai qu'il existe un racisme ordinaire, à ne pas préjuger de tout. On serait tous racistes.
Oui, parce qu'on parle...
Tous les Français seraient racistes. Il y a un chiffre qu'on cite dans le numéro de Sciences Humaines également qui est intéressant, c'est que depuis les attentats de 2015, les gens qui se déclarent racistes ont diminué en France, et ont diminué de 10%, ce n'est pas rien, en 10 ans.
Alors on dit souvent que la parole raciste s'est libérée, mais quand on se rappelle de la France Dupont-Lajoie des années 1970, la parole raciste était nettement plus présente dans la vie quotidienne, Rokhaya Diallo.
Alors oui, moi j'ai grandi en France dans les années 80 et 90, et j'ai des souvenirs, mais même d'émissions pour enfants, du Club Dorothée. Moi j'invite les auditeurs à regarder le clip d'une chanson de Dorothée qui s'appelle « La machine à valer ». C'est quand on la revoit aujourd'hui, on hallucine complètement en fait, on la voit cuisiner dans un chaudron par des hommes noirs. Enfin, c'est incroyable.
Je me souviens pas de ça.
C'est ça. Moi, j'ai grandi avec ça. Enfin, il y a même et ça, c'est vrai qu'effectivement, il y a des expressions violentes du racisme qu'on n'autorise plus du tout à la télé.
Maud Navarre.
Oui, je crois qu'il y a aussi ce qui se développe aussi, c'est un rejet du racisme, et c'est ça aussi qui fait ressortir les attitudes racistes.
Sylvain Delouvet.
Oui, je dirais aussi que Internet et les réseaux sociaux numériques aujourd'hui ont facilité l'accès à des paroles racistes ou à du contenu raciste. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a plus de racisme aujourd'hui qu'hier.
Alors, la palette du racisme est très large, de la plaisanterie lourde façon Michel Leeb, en passant par les railleries humiliantes, les agressions et dispositifs de discrimination, et puis je ne parle évidemment pas des génocides. Une blague raciste fait-elle de vous un génocidaire en puissance, Jean-François Dortier ?
Ah, j'espère que non. J'espère que non. Il y a toujours dans la blague belge ou la blague contre les blondes aussi, globalement,
les juifs,
sur les Écossais,
les Noirs,
les Juifs, il y a toujours une part, évidemment, de discrimination et de rejet de l'autre. Cela dit aussi, il faut prendre des choses avec prudence. Les principaux, aujourd'hui, diffuseurs des blagues juives sont les Juifs eux-mêmes. Moi, les meilleures blagues juives que j'ai entendues, parce qu'il y a aussi une forme d'autodérision qui est utilisée parfois par un groupe.
Rokhaya Diallo.
Et c'est pour ça qu'il faut distinguer, en fait, dans l'humour, les gens qui rient de certains groupes ou qui rient avec certains groupes. On voit qu'il y a beaucoup d'humoristes aujourd'hui minoritaires, toute la génération qui est née avec le Jamel Comedy Club, qui se sont emparés, en fait, des stigmates pour les retourner. Et c'est quelque chose qui est très présent aussi dans le stand-up américain. J'ai découvert, il y a l'année dernière, une humoriste asiatique américaine qui s'appelle Amy Wong, qui joue vraiment de ses origines. Et c'est hyper drôle parce qu'on sait qu'elle le fait pas dans un but d'humiliation. Et vraiment, c'est ce qu'il faut voir dans l'humour où, effectivement, Michel Leeb humiliait les Noirs et les Asiatiques.
Notre philosophe Thibaut de Saint-Maurice, oui, qui n'a jamais fait de blague à la Michel Leeb.
Non, je crois qu'une des explications aussi sur ce paradoxe qui est qu'on se déclare de moins en moins raciste et pourtant on déclare de plus en plus que la France est raciste, c'est que notre seuil de tolérance aussi s'est abaissé. Et qu'en fait, on est d'autant plus, on supporte d'autant moins le préjugé raciste ou voilà. Et ce qui en un sens est plutôt une bonne nouvelle. On peut avoir l'impression que la parole s'est libérée parce que en fait on est plus vigilant. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut constater aussi sur d'autres types, par exemple sur les violences intrafamiliales, sur le sexisme, etc. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que cette augmentation du seuil de vigilance, à mon avis, c'est le meilleur instrument pour faire ensuite en sorte que les systèmes et que les violences systémiques s'affaiblissent.
Et puis peut-être, pour ajouter quelque chose, peut-être aussi que les personnes qui sont visées par le racisme sont aujourd'hui davantage en capacité de répondre. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des gens qui sont diplômés, qui sont capables de se mobiliser sur les réseaux sociaux, etc., qui peuvent répondre, qui sont présents aussi sur les plateaux de télévision, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ou 30 ans.
Qu'est-ce que le racisme ? Question, témoignage, réaction, 01 45 24 7000. Gold, The Specials.
Grand bien vous fasse. sur France Inter.
10h46, qu'est-ce que le racisme? C'est notre question du jour, avec les journalistes de sciences humaines, Jean-François Dortier et Maude Navarre, avec la journaliste et militante antiraciste, également écrivaine et documentariste Rokhaya Diallo, et avec le maître de conférence en psychologie sociale, Sylvain Delouvet.
Et sinon, maman, vous avez fait quoi, vous, hier soir?
Nous avons dîné à Montmartre, dans un petit bistrot très folklorique.
Ah, c'est formidable, ça, tu me donneras l'adresse?
Bien sûr.
Formidable, oui, enfin, sauf qu'au retour, on s'est perdu, on s'est retrouvé à Barbès. Alors, ça aussi, c'était folklorique, hein.
Vous voulez dire quoi par folklorique?
Non, on n'y voyait aucun mal, Rachid. Mais pour des gens comme nous qui habitons une petite ville de province, Barbès, c'est un choc.
Oh, bah, ça, c'est sûr. Heureusement que j'avais mon passeport sur moi, parce que d'un coup, j'étais à Babelwed.
Ah, là, tu dérapes vraiment.
Mais quoi, c'est vrai, il n'y avait pas un Français sur le trottoir. C'est un constat, chérie. C'est...
Comment vous savez qu'ils n'étaient pas Français? Vous leur avez demandé leur papier? Mais depuis le début du repas, vos réflexions sont vraiment limites.
Comment ça, limite?
Limite.
Limite raciste.
Raciste? Moi? Mais je suis républicain et gaulliste comme l'était mon père. Non mais je suis calme et je n'accepte pas qu'on me traite de raciste. Je vous rappelle que sur mes 4 filles, j'en ai offert 3 à des hommes issus de l'immigration. Alors que vous, vous avez fait quoi pour la France, hein? Viens Marie, on rentre à Chinon.
Enfin Claude.
Non mais attendez Claude, il y a le dessert.
Non, mais, non merci, je n'aime pas les litchis.
Un extrait de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» de Philippe de Chauvron, 2014. Alors, certains ont accusé ce film de racisme. Qu'en pensez-vous autour de la table, Rokhaya Diallo?
Moi, je regrette toujours en fait que dans le cinéma français, on ne parvienne pas à offrir des rôles aux acteurs et filles minorités qui ne soient pas des rôles qui surlignent en permanence leurs origines. Donc, de ce point de vue-là, moi, je n'ai pas vraiment été sensible à l'humour du film qui me semblait assez lourd et assez...
Mais le rire provient souvent des préjugés et des stéréotypes.
Bien sûr, mais je trouve que les Américains le font mieux que nous.
Maude Navarre.
Oui, effectivement, oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire... Diallo. Oui, effectivement, voilà, ce qui fait rire, c'est l'humour sur les stéréotypes, hein, c'est ce genre de choses.
Sylvain Delouvet, l'humour joue souvent des stéréotypes et des préjugés.
Oui, complètement, c'est-à-dire qu'on ne peut rire à une blague ou à de l'humour de ce type-là que si on partage, que si on connaît les stéréotypes qui y sont liés. Sinon, on ne comprendra pas pourquoi tel groupe est stigmatisé sur tel élément.
Bonjour David de Bordeaux.
Bonjour.
Bienvenue, vous avez une question assez pertinente. Allez-y, nous écoutons.
Alors, une question peut-être pas, c'est davantage une réflexion. Ma réflexion est la suivante. Alors il se trouve que je suis par ailleurs très intéressé aux problématiques sur le racisme. Mmh. Je lis pas mal dans ce domaine et je m'intéresse beaucoup aux origines du racisme. Et je me suis rendu compte, et en tout cas c'est ce que je crois moi aujourd'hui, que l'être humain, nu de toute expérience, est naturellement raciste, et je crois qu'il faut qu'on en soit tous conscients. L'être humain a fondamentalement peur de ce qui n'est pas lui, de ce qui est différent. Et heureusement, nous sommes humains et nous avons la possibilité de pouvoir, nous améliorer et apprendre à accepter l'autre dans son entière différence. Et je tiens beaucoup à ce concept qui fait que pour améliorer le vivre ensemble, pour le rendre non pas supportable, mais le rendre vraiment générateur de richesse, je crois qu'il faut comprendre le point de départ. Voilà, c'était ma petite réflexion.
Très bonne réflexion, David, mais qui m'amène à une question beaucoup plus large. Sommes-nous tous des racistes en puissance? Sylvain Delouvet, je m'adresse au psychologue social. J'aimerais qu'on s'arrête sur une expérience de Musafer et Shérif qui a été menée en 1961. Musafer Shérif et son équipe qui ont divisé 2 groupes d'enfants d'une colonie de vacances. Et puis, ils ont rassemblé ces 2 groupes au même endroit. Et qu'est-ce qui s'est passé, Sylvain Delouvet?
Oui, alors Shérif était un chercheur américain d'origine turque qui voulait comprendre comment lutter contre les préjugés et le racisme. Et il a eu pour ça l'idée de d'abord créer lui-même du préjugé et du racisme. Pour ce faire, il a utilisé 2 groupes de jeunes adolescents dans un parc dans l'Oklahoma en plein été pendant 3 semaines. Et à leur arrivée, il les a divisés arbitrairement, aléatoirement, en 2 groupes. Un groupe qu'il a appelé les aigles, un groupe qu'il a appelé les crotales. Et en les faisant jouer ensemble à des jeux compétitifs, de type du football, des jeux avec des ballons, il a commencé à faire émerger du conflit intergroupe. Les aigles se pensaient supérieurs aux crotales et inversement. Et donc des réactions d'hostilité, de stéréotypes, de préjugés, de racisme ont émergé, ont élaboré. Et l'idée de Shérif, c'est qu'en les faisant travailler ensemble, en créant ce qu'il a appelé un but supraordonné, nécessitant que les aigles et les crotales travaillent ensemble à des activités, eh bien ce conflit intergroupe diminue et les préjugés baissent.
Et puis des expériences ultérieures hein, ont montré qu'il suffit de diviser un groupe entre rouge et bleu pour que des réactions d'hostilité naissent, Jean-François Dortier. Et c'est vrai que je pense à des émissions de télé-réalité comme Koh-Lanta qui divise en deux des groupes entre les jaunes et les rouges. Et ça crée une hostilité quasiment instantanée. Quoi.
Voilà, c'est des micro-expériences in vivo hein, qu'on a à la télévision avec ces expériences-là. Mais attention, donc effectivement, ce que dit notre l'auditrice, et ce qui vient d'être dit, montre bien qu'il y a une tendance à discriminer, à différencier quand on appartient à un groupe. La logique de l'entre-soi et du rejet de l'autre est une potentialité. Ça ne veut pas dire que ça dérive toujours vers le racisme. Justement, l'expérience menée jusqu'au bout a montré qu'effectivement, on peut aussi constituer des communautés plus larges. Ce qu'on voit tous les jours, par exemple, quand on regarde les matchs de foot, les Marseillais n'aiment pas les Parisiens. Il y a une forme de racisme aussi, anti-parisien, parigo tête de veau de la province contre les... Et puis quand il y a l'équipe de France, eh ben ils sont tous ensemble. Donc l'important, c'est de ne pas non plus enfermer les gens dans une sorte de racisme originel invariable. Heureusement, la société a des capacités d'amélioration.
Question par courriel, les enfants sont-ils plus racistes que les adultes, Maud Navarre? Je pense à une expérience menée par le psychologue Kenneth Clark et sa femme en 1939 aux États-Unis. Ils ont inventé un protocole pour tester le racisme des enfants noirs. On a demandé à des enfants de 6 à 9 ans de choisir entre deux poupées, l'une blanche et l'autre noire.
Oui. Moi, je pense que ce qui est premier, effectivement, c'est la capacité à différencier, en fait. Hein.
Mais revenons sur cette expérience. Oui. Elle est quand même assez formidable. Parce que, donc, on demande à ces enfants de choisir entre ces deux poupées, l'une blanche et l'autre noire, tout en posant des questions du type « Montre-moi la poupée que tu préfères » ou « Montre-moi quelle est la gentille et quelle est la méchante ». Et Jean-François Dortier, c'est assez intéressant.
Oui, alors effectivement, cette expérience est intéressante. Elle est faite, donc, par le docteur Clark, qui est noir lui-même, qui prend une époque qui est celle de la ségrégation des États-Unis, où il y a donc des écoles pour noirs et des écoles pour blancs. Et donc, on montre... son objectif n'était pas de montrer que l'enfant était raciste. C'était spontanément, en prenant cette expérience-là auprès d'enfants qui étaient déjà des grands enfants, qui avaient 6-7 ans. Et on leur présente effectivement une poupée noire, une poupée blanche, et là, effectivement, la moitié considère que la blanche, c'est la plus gentille.
63% des 300 enfants noirs qui fréquentent donc ces écoles réservées aux noirs préféraient la poupée blanche et la trouvaient en même temps gentille.
Alors, à la fois plus gentille, la plus belle. Enfin, il y a plusieurs critères qui étaient donnés avec laquelle tu veux jouer, parce que parfois, ce n'était pas une énonciation, mais c'est laquelle tu voudrais emmener avec toi si on te la donnait. Et l'expérience a été refaite récemment. Et elle montre des résultats encore plus importants. Et là, on n'est pas dans le cas d'une sorte de racisme naturel. On est dans le cas de l'intériorisation par des enfants noirs de ce qu'ils entendent autour d'eux.
Maud Navarre.
Oui, c'est ça. C'est un contexte de socialisation, d'éducation qui contribue en fait à attribuer une valeur positive à ce qui est blanc et plus négative à ce qui est noir, par exemple. Et après, c'est seulement dans un second temps, en grandissant, en s'éduquant, en s'ouvrant à l'esprit critique, qu'on se rend compte que ces stéréotypes-là ne sont pas forcément la réalité.
Rokhaya Diallo.
C'est intéressant justement cette intériorisation des stéréotypes parce que j'ai fait justement un travail sur les cheveux crépus qui sont portés notamment par les personnes d'ascendance africaine et la manière dont la société en fait enjoint ces personnes en leur disant que, enfin, en leur envoyant le message selon lequel ces cheveux sont esthétiquement inacceptables. Et je crois que quand on appartient à une minorité, on intériorise en fait le fait que ces qualités physiques sont inesthétiques par rapport aux qualités dominantes. Et ça, c'est diffusé à travers la télévision, les magazines féminins, etc.
L'été dernier, des milliers d'Asiatiques ou de Français d'origine asiatique se sont mobilisés contre les violences verbales et physiques racistes qu'ils subissent. Coup de projecteur avec vous, Grassley, sur ce racisme. Bonjour Grassley.
Oui, bonjour.
Vous êtes blogueuse d'origine sino-khmer, votre blog s'appelle La Petite Banane. Les nouvelles générations se mobilisent et brisent la loi du silence qui prévalait chez de nombreux Asiatiques ou Français d'origine asiatique.
Écoutez, moi, je suis née en France, donc j'ai jamais été vraiment silencieuse par rapport à ce que je ressentais. J'en ai parlé, j'en parle autour de moi. Maintenant, je pense que la première génération, en tout cas, je parle pour mes parents qui sont venus ici, fuyant la guerre, ils ont été réfugiés.
pour eux, parler, c'était mourir, en fait. Donc, pendant longtemps, ils n'ont pas voulu, ils ont voulu survivre, ils ont voulu faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour être, rester invisible et être, rester heureux, rester caché, rester heureux. Voilà, c'est une maxime qui marche dans beaucoup d'endroits, je pense.
Gracely, quels sont les préjugés, les stéréotypes racistes qui reviennent le plus souvent à l'encontre des Asiatiques vivant en France ?
Il y a des préjugés dits positifs et d'autres qui sont plutôt négatifs. On nous érige souvent comme la minorité modèle, hein, qui serait mieux que les autres minorités. Donc, c'est-à-dire qu'on est, on reste invisible et discret, on ne dérange pas l'ordre des choses. Moi, j'avais tellement intériorisé cette image que quand j'étais à l'école, j'avais peur de répondre aux questions de la maîtresse, de peur de briser, de donner une mauvaise réponse et de briser cette image de l'élève sage, vous voyez, et que j'avais des incompréhensions que je n'osais pas dire. Et il y a aussi des préjugés maintenant de plus en plus négatifs puisque les chiffres de l'immigration croissent et on dit que voilà, on n'a pas de papier, que on a de l'argent sur nous, que on est, il y a de la mafia, que voilà, bon, enfin c'est des choses que j'entends sur d'autres communautés, mais ça marche aussi pour les communautés asiatiques.
Merci beaucoup Gracely, rappelez le nom de votre blog.
Oui, c'est lapetitebanane.com.
Alors, chers amis autour de la table, faudra revenir pour qu'on parle des moyens de lutter contre le racisme. C'est un vaste sujet. Nous consacrerons une prochaine émission à la lutte contre le racisme. Merci beaucoup, Rokhaya Diallo, d'être venu. Merci, Jean-François Dortier et Maud Navarre. Le dernier numéro de Sciences Humaines consacré au racisme est disponible en kiosque. Merci, Sylvain Delouvet, d'être intervenu depuis France Bleu Armorique à Rennes. Merci aux équipes sur place. Je signale, Jean-François Dortier, l'exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme » qui se tient au Musée de l'Homme à Paris sous le patronage de l'UNESCO jusqu'au 8 janvier 2018. Demain, on se demande comment apprivoiser sa voix. On se demandera ce que notre voix dit de notre personnalité. Nous recevrons notamment l'un des protagonistes du documentaire à voix haute. Actuellement en salle, vous pouvez témoigner et poser vos questions. Grand bien vous fasse à radiofrance.com. À la technique ce matin, Hélène Langlois et Lucas Vaillant.